Imaginez un peu découvrir que pendant des siècles, un seul petit mot mal traduit a complètement inversé la fin d'un des textes les plus célèbres de l'humanité.
Ouais, c'est le genre de choses qui donne le vertige, c'est clair.
Totalement. Et aujourd'hui, on s'attaque au livre de Job, et plus particulièrement à son épilogue, le fameux chapitre 42.
Le chapitre de la discorde, on pourrait dire.
C'est ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on se base sur la session 23 des enseignements du docteur John Walton. Et notre mission pour cette analyse approfondie, c'est vraiment de démêler cette conclusion qui a laissé d'innombrables lecteurs complètement perplexes.
Et à juste titre, en fait.
Bah oui, parce que quand on traverse 41 chapitres de poésie super brute, de douleurs inimaginables, de débats philosophiques très intenses, on s'attend logiquement à une résolution profonde.
Ouais, une vraie catharsis.
Voilà. Mais l'épilogue de Job, il donne souvent l'impression d'être une espèce de fin hollywoodienne rajoutée à la va-vite. Un truc un peu creux, quoi.
Mais cette sensation de fin artificielle, c'est surtout le symptôme d'une lecture moderne. On a tendance à plaquer nos propres attentes sur un texte super ancien.
C'est-à-dire qu'on veut que ça finisse bien selon nos critères à nous.
Exactement. Pour comprendre véritablement cette conclusion, il faut d'abord accepter de laisser à la porte toutes nos idées préconçues sur la façon dont la justice devrait fonctionner.
Ah, ça c'est pas facile.
Non, c'est sûr. Mais le texte source qu'on examine révèle que cet épilogue, c'est pas le véritable message final du livre. C'est plutôt un moyen très spécifique de nouer les derniers fils narratifs.
D'accord, décortiquons cela. Parce que si cet épilogue cache un sens complètement différent, il faut reprendre les choses dans l'ordre.
Je te suis.
Alors la tempête vient de s'apaiser, Dieu vient de prononcer ses discours fracassants depuis le tourbillon, et là dans les versets 7 à 9 du chapitre 42, l'heure des comptes a sonné.
Le moment de vérité.
Ouais, Dieu commence à distribuer des réprimandes. Donc ma première question c'est, qui se retrouve exactement dans le collimateur divin à ce moment précis ?
Alors Dieu s'adresse directement à Eliphaz, et Eliphaz en fait, il agit comme le représentant des trois amis de Job. Le texte dit très clairement que la colère de Dieu s'est enflammée contre Eliphaz et ses deux compagnons.
Ok, donc les trois amis sont ciblés. Mais il y a un truc qui frappe les analyses du texte, c'est l'absence d'un quatrième personnage.
Élihu ?
Élihu ? Ouais ?
Le jeune homme qui est intervenu de manière assez véhémente vers la fin des dialogues, il n'est pas mentionné du tout.
Il est complètement épargné.
Et pendant très longtemps, certains lecteurs ont cru que cette absence, ça prouvait qu'Élihu est un personnage ajouté plus tard par un autre auteur.
Genre un ajout de dernière minute.
Voilà, une sorte de rustine éditoriale. Mais l'analyse du docteur Walton, elle propose une explication bien plus organique. En fait, Élihu n'est pas réprimandé tout simplement parce qu'il a parlé correctement de Dieu.
Ah ouais, donc il a juste eu bon, quoi.
C'est ça. Il n'a pas commis l'erreur fatale des trois autres amis.
Mais du coup, c'est quoi cette erreur fatale? Qu'est-ce que les amis ont si mal fait par rapport à Job?
C'est là qu'intervient cette fameuse surprise liée à la traduction dont tu parlais au début.
Ah, on y vient.
Le nœud du problème, il se trouve dans la façon dont Dieu évalue les paroles de Job par rapport à celles de ses amis. Si on regarde la plupart des traductions classiques, comme la version NIV en anglais ou même plein de Bibles françaises, Dieu dit à Eliphaz un truc du genre « Vous n'avez pas dit la vérité à mon sujet, comme l'a fait mon serviteur Job ».
Ok, et vu sous cet angle, cette phrase, elle semble valider tout ce que Job a dit pendant des dizaines de chapitres.
Ce qui est une impossibilité logique totale.
Bah oui, parce que Job, il a dit énormément de choses erronées, non?
Exactement. Il a accusé Dieu d'être un tyran arbitraire, il a exigé des comptes de manière super arrogante. Dieu peut décemment pas déclarer que la théologie de Job tout au long du livre était parfaite.
Ça n'aurait aucun sens.
L'éclairage, il vient vraiment du texte hébreu original. Le mot souvent traduit par « vérité », c'est « nekona ». Et ce terme, il désigne pas du tout une vague idée conceptuelle. Il décrit quelque chose qui est logique, qui est sensé et vérifiable. En gros, c'est une parole robuste.
Une parole robuste. Mais attends, si Job accusait Dieu d'être un tyran, en quoi est-ce que c'est une parole robuste et sensée ?
Le secret réside dans ce qui accompagne ce mot. Le vrai problème de nos traductions, c'est la préposition qui suit le verbe.
La préposition, d'accord.
Ouais. Nos Bibles disent que Job a dit la vérité à propos de Dieu. Or, la combinaison de ce verbe hébreu spécifique et de cette préposition, elle a un sens extrêmement strict.
C'est-à-dire ?
Tout au long de l'Ancien Testament, et sans aucune exception, cette construction grammaticale signifie « parler à quelqu'un qui est présent ».
Attends une seconde.
Ouais.
Ça veut dire que la phrase correcte devrait être un truc comme « Vous ne m'avez pas parlé avec justesse comme l'a fait mon serviteur Job ».
C'est exactement ça. Et c'est un changement monumental.
Ah mais c'est fou ! Donc Dieu n'évalue pas l'exactitude théologique de ce qu'ils ont dit sur lui, il évalue le fait qu'il se soit adressé à lui.
Ce qui restreint considérablement ce que Dieu approuve en fait. Si Dieu félicite Job pour lui avoir parlé directement, de manière juste, bah, il ne valide pas les 40 chapitres de plaintes désordonnées.
Il valide juste un moment précis.
Voilà, il valide très spécifiquement la réponse finale de Job.
Celle qui est au tout début du chapitre 42, c'est ça?
Exactement, dans les versets 1 à 6, juste après le discours de Dieu depuis la tempête. Dans ces quelques versets, Job cesse de parler de Dieu aux autres et il s'adresse directement à Dieu. Il s'humilie, il se repent de son ignorance, il adopte vraiment une posture de soumission totale.
C'est fascinant, c'est un peu... C'est comme si un étudiant était noté uniquement sur sa présentation orale finale, en face à face avec le jury.
C'est une excellente analogie.
Pendant tout le semestre, cet étudiant, il a rendu des brouillons catastrophiques, il a fait des erreurs de calcul grossières, il s'est plaint à tout le monde de l'injustice du système éducatif.
Il a blâmé les profs, l'école, tout le monde.
Ouais, voilà. Mais le jour de l'examen final, paf, il se tient devant les professeurs et il livre la conclusion parfaite, honnête. Il reconnaît les limites de son propre savoir.
Et le jury, il valide pas les mois de brouillon erroné.
Bah non, il valide uniquement cette présentation finale, cette posture de face à face, d'honnêteté intellectuelle.
Et là, le contraste avec les amis de Job devient évident. Pourquoi Dieu est-il si en colère contre Eliphaz, Bildad et Zophar?
Parce qu'ils n'ont pas fait cette présentation finale.
C'est ça. Non pas à cause d'une théologie imparfaite, mais parce qu'après le discours fracassant de Dieu, ils sont restés complètement muets.
Ils se sont dégonflés.
Ils n'ont pas parlé à Dieu. Ils ont offert aucune réponse pénitente, aucune humilité. Job, lui, il a eu le courage de maintenir la relation en s'adressant à la divinité, même dans sa repentance la plus profonde.
Mais là, on frappe un mur narratif assez massif, non?
Comment ça?
Bah, si on suit cette logique... Si Job est uniquement félicité pour sa révélation finale et son humilité devant la grandeur insondable de Dieu, pourquoi le verset suivant contredit totalement cette idée?
Tu parles de la restauration matérielle.
Ouais. Dieu se retourne et lui rend physiquement toute sa richesse. Il double la taille de ses troupeaux, il lui donne de nouveaux enfants. C'est vraiment ce qui donne ce côté artificiel dont on parlait.
Le fameux happy end qui gêne.
Pourquoi ruiner une si belle leçon sur l'humilité désintéressée en distribuant un énorme chèque de récompense à la fin? Franchement, ça semble annuler tout le propos du livre sur la souffrance des justes.
Ce qui est fascinant ici, c'est le cadre d'interprétation que suggère le docteur Walton pour résoudre cette contradiction précise.
Ok, je t'écoute.
Pour que cette fin ait un sens, il faut concevoir l'ensemble du livre de Job comme une expérience de pensée.
Une expérience de pensée?
Ouais, un thought experiment grandeur nature, si tu préfères.
Mais attends, des générations et des générations de lecteurs ont lu ce texte comme l'histoire littérale, historique, d'un homme en chair et en os.
Et c'est bien là le problème. Si nous lisons ce texte de manière purement littérale et émotionnelle, la fin est non seulement creuse, elle est presque cruelle en fait.
Cruelle?
Ouais. Bah, imagine un homme réel, brisé par la mort violente de ses 10 enfants. Le fait qu'on lui donne 10 nouveaux enfants à la fin, ça guérit pas le deuil des 10 premiers.
Ah bah c'est clair, on remplace pas des enfants comme des paires de chaussures.
Exactement. Des êtres humains, c'est pas des objets interchangeables qu'on remplace pour équilibrer un grand livre de contes. Si l'on s'accroche à une lecture purement émotionnelle, l'épilogue sonne totalement faux.
C'est presque choquant même.
Mais dans le cadre d'une expérience de pensée littéraire, chaque élément, y compris ses nouveaux enfants et ses troupeaux doublés, a une fonction rhétorique bien précise. L'auteur place des pions pour prouver un point cosmique.
Je dois avouer que c'est une pilule difficile à avaler. C'est super vertigineux de voir la tragédie humaine réduite à une fonction rhétorique.
Je comprends, ça bouscule.
Mais ok, admettons. Si c'est pas pour consoler émotionnellement un personnage historique, à quoi ça sert cette restauration matérielle ridicule de la fin AI, hein?
C'est la bonne question.
Parce que le grand danger ici, c'est que redonner des milliers de moutons à Job, ça ressemble trait pour trait à la réinstallation du principe de rétribution.
Le fameux principe.
Ouais, cette idée très ancrée qui dit que les gens bien sont récompensés et les gens mauvais sont punis.
Alors que le livre entier, de la première à la dernière ligne, est une démonstration que ce principe de rétribution est fondamentalement inadéquat.
Donc on tourne en rond.
Pas du tout. Pour comprendre pourquoi Dieu restaure les biens de Job, il faut revenir aux politiques de base exposées dans le prologue. Tu te souviens du tout début?
Avec l'adversaire dans la cour céleste?
Voilà. L'adversaire affirmait devant la cour que c'était une mauvaise politique de faire prospérer les justes.
Ah oui, parce que ça créait des croyants intéressés, des gens qui servent Dieu juste pour le profit matériel.
L'adversaire disait en gros, si tu paies les gens pour être bons, ils sont pas vraiment bons.
C'est de l'achat de comportement.
C'est ça. Et de son côté, Job pensait exactement l'inverse pendant son épreuve.
C'est-à-dire ?
Job clamait que c'était une mauvaise politique de faire souffrir les justes, parce que ça violerait tout sens de l'équité cosmique.
Ok, donc on a deux revendications qui s'opposent totalement. L'adversaire dit qu'il ne faut pas récompenser les justes, et Job dit qu'il ne faut pas les punir.
Et que fait Dieu dans cet épilogue ? Il rejette catégoriquement les deux.
Il renvoie tout le monde dos à dos.
Ses politiques, sa manière de gérer le cosmos, elle reste totalement inchangée. Les attaques cyniques de l'adversaire et les plaintes désespérées de Job ont simplement rebondi sur lui.
D'accord.
En restaurant Job au double de ce qu'il possédait, Dieu démontre qu'il n'a pas été forcé de modifier ses plans. Il prouve à l'adversaire qu'il continuera de bénir qui il veut, quand il veut.
Ah.
Cependant, et c'est la distinction majeure, cette prospérité finale n'est absolument plus liée au principe de rétribution.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais je dois me faire l'avocat du diable une seconde.
Vas-y, je t'écoute.
Si Dieu lui redonne sa richesse à la fin, ok, on peut appeler ça un cadeau divin ou le résultat de son bon plaisir. Mais de l'extérieur, franchement, est-ce que ça ressemble pas très exactement à une récompense méritée ?
Visuellement, oui.
Bah oui. La ligne entre « je te bénis parce que c'est mon bon plaisir » et « je te bénis pour ta belle repentance », elle est super fine. De l'extérieur, on voit juste un homme juste qui finit par s'enrichir à nouveau, la boucle est bouclée.
C'est l'objection la plus naturelle, et c'est pour ça que l'esprit humain lutte avec ce texte depuis des millénaires.
Je me sens moins seul.
Visuellement, de l'extérieur, le résultat matériel est identique. Mais la révolution, elle se trouve dans le mécanisme sous-jacent.
Le mécanisme.
Le principe de rétribution est par essence un système contraignant. Il implique que Dieu doit récompenser une donation.
Comme une obligation.
Il emprisonne Dieu dans une obligation mécanique. En accordant cette prospérité finale comme un pur cadeau, un acte de souveraineté totalement libre, Dieu prouve qu'il n'est pas lié par ce système. Pense à la différence entre un distributeur automatique et une relation interpersonnelle.
Un distributeur automatique de justice cosmique, j'aime bien l'image.
Si tu insères une pièce dans un distributeur, la machine doit te donner une canette de soda.
C'est mécanique, c'est obligatoire. Si elle ne le fait pas, je secoue la machine.
Exactement, et c'est ce que fait Job pendant tout le livre. Il secoue la machine parce qu'il a mis sa pièce et qu'il n'a rien eu. Le principe de rétribution voit Dieu comme ce distributeur.
Ok.
Par pure générosité, décide librement de t'offrir en verre.
Ah !
Le résultat final est strictement le même. J'ai une boisson dans les mains.
Mais le mécanisme cosmique, la nature même de la transaction, est radicalement différent.
C'est vrai. C'est pas une dette, c'est un don.
Voilà. La prospérité n'est pas le fondement sur lequel l'univers est ordonné. L'épilogue ne parle pas de la guérison émotionnelle de Job. Il parle de la souveraineté absolue et inconditionnelle de Dieu.
L'image du distributeur automatique, elle clarifie énormément de choses. Mais ça soulève une autre question.
Laquelle ?
Bah, si le cosmos ne fonctionne pas comme une machine où l'on insère des pièces de bonnes actions pour obtenir des canettes de bénédiction, sur quoi il repose ?
C'est la question fondamentale. Si l'ordre de l'univers n'est pas maintenu par cette stricte justice transactionnelle, comment le monde ne s'effondre-t-il pas dans le chaos total ?
La source illustre ce dilemme avec une mécanique intellectuelle très précise. C'est ce qu'on appelle le triangle des revendications.
Le triangle ? Ok, dis-moi en plus.
Imagine un triangle géométrique. Sur chacune de ces trois pointes, il y a une affirmation qui est tenue pour vraie par les personnages.
D'accord.
Première pointe, le principe de rétribution. L'idée que les justes prospèrent et les méchants souffrent.
Ok, le karma version biblique.
Deuxième pointe, la droiture humaine. Le fait que Job est un homme fondamentalement innocent.
Ce qu'on sait depuis le chapitre 1.
Et troisième pointe, la justice de Dieu. L'idée que Dieu gère le monde avec une équité parfaite.
Donc, on a rétribution, innocence de Job et justice divine. Mais le problème, c'est qu'il est mathématiquement impossible de maintenir ces trois pointes en même temps face à la souffrance de Job, non ?
C'est toute la tragédie du livre.
Si on croit au principe de rétribution, donc la pointe 1, et qu'on croit que Dieu est parfaitement juste, la pointe 3, alors on est mécaniquement forcé de détruire la pointe 2.
Job ne peut pas être innocent.
C'est exactement le piège dans lequel sont tombés ses amis. Ils ont préservé le système en sacrifiant la réputation de Job.
Exactement.
Et la mécanique inverse est tout aussi destructrice.
Ah bon ?
Bah, regarde Job. Lui, il savait de manière absolue qu'il était innocent. Il tenait fermement la pointe 2.
Oui.
Et il croyait dur comme fer au principe de rétribution, la pointe 1. Ah, du coup, sa logique l'a forcé à abandonner la pointe 3. Il a conclu que Dieu devait être injuste ou incompétent.
C'est exactement ça. tous les personnages humains du livre essayent désespérément de se placer sur l'une des arêtes de ce triangle. Ils bricolent avec ces trois concepts pour donner un sens à la douleur.
C'est fascinant de voir ça comme une équation impossible. Et du coup, où est-ce que Dieu se place sur ce fameux triangle géométrique de la pensée humaine?
Il s'y place pas.
Pas du tout.
Pas du tout. Quand Dieu répond enfin depuis la tempête, il prend ce triangle, il le froisse complètement et il le jette.
Il casse le jeu, quoi.
Dieu refuse d'acheter cette construction intellectuelle humaine pour ordonner le cosmos. L'univers ne repose pas sur ce trépied fragile.
Mais alors, si l'univers ne repose pas sur l'équation de la justice telle que nous la définissons, c'est quoi son véritable socle?
La fondation de l'univers, selon l'épilogue, c'est la sagesse. La sagesse divine insondable.
La sagesse au lieu de la justice.
Voilà. Parfois, il est vrai que des événements semblent correspondre à notre principe de rétribution. Quelqu'un travaille dur et réussit, quelqu'un agit mal et finit en prison.
Donc le triangle a l'air de fonctionner.
Il a l'air, oui. Mais ce ne sont pas les rouages d'une immense machine judiciaire cosmique. Ce sont de simples effets d'entraînement.
Des ripple effects en anglais.
Ouais, des ricochets découlant du caractère d'un dieu qui gère un cosmos infiniment complexe, avec sagesse.
C'est un changement de paradigme assez féroce pour l'intellect humain. C'est comme si l'humanité essayait obstinément d'étudier un immense tournoi d'échecs.
J'aime beaucoup cette image.
On regarde le plateau et on suppose que chaque mouvement doit obéir à une justice de compensation. Si un pion noir est pris, l'équilibre de l'univers exige qu'un pion blanc soit pris en retour.
Œil pour œil, pion pour pion.
Voilà. Mais en réalité, le grand maître, il joue pas du tout aux échecs. Il joue à un jeu d'une complexité infinie, basé sur une sagesse globale, dont nous on perçoit qu'une fraction infime du plateau.
C'est tout à fait ça.
Et nous on s'épuise à crier à l'injustice parce qu'on applique les règles des échecs à un jeu complètement différent.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend enfin pourquoi ce livre était si exaspérant pour les lecteurs en quête de solutions toutes faites.
Parce qu'il ne donne pas les règles du vrai jeu.
Le livre de Job ne fournit absolument aucune explication sur pourquoi les innocents souffrent.
Ah ouais, il n'y a pas de révélation du type « Ah, voilà la raison de ta douleur, Job ».
Aucune. Job ne sait jamais, jusqu'à la toute fin, ce qui s'est passé dans les coulisses célestes. Le pourquoi de ces épreuves lui reste totalement caché.
Et l'auteur du livre refuse délibérément de combler ce vide pour nous aussi?
Parce que chercher la réponse au pourquoi, c'est essayer de déplisser le fameux triangle pour forcer Dieu à s'y soumettre. L'objectif profond de cet épilogue n'est pas de justifier la souffrance, mais d'enseigner comment penser correctement à Dieu dans un monde où cette souffrance frappe aveuglément.
Pour laisser place au cadeau gratuit de la souveraineté. Et ce fameux triangle froissé au profit de la sagesse divine. Quelle est la synthèse?
La synthèse, c'est que l'épilogue n'est pas une rustine mal collée. C'est la conclusion parfaite, parce qu'elle dissipe toutes nos illusions. La leçon n'est pas du tout que Job est un super-héros de la foi dont on devrait copier aveuglément le comportement.
Et c'est encore moins la promesse d'un retour sur investissement, on l'a bien compris.
Exactement. Nous ne pouvons pas regarder cet épilogue pour nous consoler en nous disant « Tiens bon, si tu perds tout aujourd'hui, Dieu te donnera une double ration matérielle demain. De meilleures opportunités de carrière, une maison plus grande. »
Le fameux « Un jour on récupérera tout ».
Ce serait désastreux pour notre public de faire de la restauration matérielle de Job un modèle d'attente pour leur propre vie. Ce serait retomber instantanément dans le piège du distributeur automatique.
On insère notre douleur et on attend notre canette de bénédiction.
C'est ça. L'épilogue nous enseigne plutôt à acquérir une sagesse robuste. Cette sagesse, elle n'a pas le pouvoir magique d'effacer la douleur, le deuil ou l'injustice de nos vies.
Malheureusement.
Cependant, elle a le pouvoir de changer notre regard. Elle nous protège des logiques mathématiques destructives qui nous feraient rejeter Dieu ou nous maudire nous-mêmes au moment précis où nous sommes le plus vulnérables. La sagesse consiste à maintenir le dialogue ouvert avec le divin. Comme l'a fait Job à la toute fin, même dans l'obscurité totale.
On ne comprend pas les règles du plateau de jeu, on souffre sur ce plateau, mais on choisit de faire confiance à la sagesse de celui qui conçoit le jeu.
C'est une confiance qui dépasse la simple compréhension.
C'est une conclusion qui exige une humilité presque douloureuse. Elle ne referme pas du tout l'histoire avec un joli nœud papillon hollywoodien, elle fracasse plutôt l'orgueil de nos équations cosmiques.
C'est le mot, ça fracasse nos certitudes.
Ce qui nous amène à une réflexion finale, une pensée que je voudrais soumettre à la méditation de ceux qui nous écoutent pour prolonger un peu l'onde de choc de ce texte très ancien.
Je sens que ça va piquer un peu.
Ouais, un petit peu. Si l'on accepte véritablement, au fond de soi, que l'univers fonctionne sur la base d'une sagesse divine insondable, plutôt que sur la balance stricte et super réconfortante de notre justice humaine transactionnelle, comment cela devrait-il changer la façon dont nous percevons non seulement l'injustice de nos échecs inexplicables, mais aussi et peut-être surtout l'orgueil de nos propres succès inattendus?
Ouf ! Si nos réussites ne sont pas le salaire mécanique de nos vertus et si nos effondrements ne sont pas les punitions automatiques de nos vices, c'est l'entièreté de la façon dont nous évaluons la valeur d'une vie humaine qui doit être réécrite.
Le triangle est définitivement froissé. La véritable épreuve de la sagesse commence maintenant. À nous d'apprendre à vivre sans l'équation rassurante au bout du tableau.